Et j'enchaîne. Donc, je donne la parole à Madame Raja Rouhouni, l'université de Jdida, avec sa thématique Fatema et le démon en silence.
Bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être ici. Je remercie Madame Talahid de m'avoir invitée. Je suis vraiment honorée d'être ici et d'avoir cet échange avec les gens qui ont connu Fatema al-Mernissi. Je ne l'ai malheureusement pas beaucoup connue. Je l'ai connue d'après ses livres. Et j'ai écrit cette thèse sur son œuvre qui était la première à être faite, réalisée au Maroc. Je dis ça pas pour but publicitaire, mais c'était très important à l'époque parce que mon directeur de recherche s'est un peu battu contre le doyen à l'époque, à Mohamed V, pour que j'enregistre une thèse sur Fatema al-Mernissi, parce qu'il n'était pas, d'accord. Il disait que les travaux de Mernissi n'étaient pas sérieux. Alors moi, j'ai eu un peu plus de chance que Mérim, parce que moi, j'étais dans le département d'anglais. Peut-être qu'il y a une petite ouverture sur le féminisme, qui n'est pas le cas pour d'autres départements. Donc j'ai eu des échos très positifs dans mes cours sur Fatema al-Mernissi, comme quoi c'est la notre féministe, comme on étudiait beaucoup le féminisme et les études, pas beaucoup, non, les études de genre, pas beaucoup, malheureusement. Donc moi, j'ai fait cette thèse et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le féminisme islamique. Contrairement à Marine, moi, j'étais pas très en accord avec l'islam, avec la religion que je trouvais où j'étais comme femme considérée comme de seconde zone. Bien sûr, c'était une position très ignorante et le fait de lire Fatema al-Mernissi, les deux livres Beyond the Veil, qui est sexe, islam et idéologie, et le harem politique, c'était deux mondes différents. Donc et qui m'attirait, les deux. Donc j'ai essayé d'avoir quelque chose pour réconcilier ces deux perspectives. Et donc je me suis axée sur le féminisme islamique, bien que j'ai travaillé un peu sur son côté postcolonial. Là, je vais parler un peu de plus peut-être de ses activités qui sort du cadre de l'islam. Donc j'ai intitulé ce texte Fatema et le démon du silence, qui me vient de cette citation dans un de ses livres. Elle dit: la parole confisquée des femmes exclues de la scolarisation m'a toujours hantée, surtout quand je préparais ma thèse dans une université américaine entre 1970 et 1973. J'ai toujours fait des interviews de femmes illettrées, comme pour exorciser le démon du silence. Fin de citation. Donc Fatema al-Mernissi s'était toujours battue contre ce démon au visage multiple qui réduit des femmes, mais aussi des hommes, au silence et à l'oubli. Elle explique que c'est la motivation première derrière son choix pour des études de sociologie. Bien que son combat les conduit au-delà de ses frontières, comme je vais l'expliquer plus loin. Cet article propose de mettre la lumière sur le travail et l'arsenal à la fois théorique et allégorique que nous a laissé Fatema al-Mernissi, afin de penser un féminisme plus organique et moins normatif ou dogmatique au Maroc. C'est comme ça que je veux approcher cette fois. Donc, Mernissi a consacré son travail à être le plus fidèle possible à ce qu'elle appelle le réel ou à ce qu'elle appelle le vécu féminin, qui s'est avéré est pluriel, surtout celui des femmes appartenant aux couches sociales marginalisées. Donc, par ses travaux et les groupes de recherche qu'elle a initiés dès les années 80, elle a essayé de rendre audible la parole de ces femmes et montrer leur capacité d'agir et leur créativité qui, pour Mernissi, rendait problématique tout discours local ou occidental sur leur soumission ou passivité. Cette mission s'est vue élargir plus tard dans sa vie jusqu'à accompagner d'autres groupes marginalisés dans leur prise de parole, et cela souvent au-delà du genre. Son objectif était non seulement d'analyser et de critiquer les obstacles structurels de cette prise de parole, mais aussi de mettre la lumière sur l'agencéité, agency, de ces groupes et individus dans leur combat pour l'égalité et contre l'oppression de tout genre. Son génie est qu'elle a vite compris que la prise de parole des femmes ne pouvait véritablement s'accomplir si elle n'est pas accompagnée d'une démocratisation plus globale et d'un vivre ensemble social où toutes ces voix pouvaient être audibles sans nécessairement parler la même langue. Je propose par ce qui suit de suivre Mernissi dans son projet vaste, qui peut même paraître non homogène ou marqué par des ruptures, mais qui est en vérité très cohérent. Dans sa recherche d'un féminisme toujours organique, c'est-à-dire fidèle au réel. Un féminisme fluide et non normatif qui traduit son désir pour un changement social durable et réfléchi. La diversité des travaux de Mernissi, des thèmes qu'elle a abordés, des activités dans lesquelles elle était impliquée, de ses concepts et projets et la transversalité de son approche représentent une véritable feuille de route pour un féminisme organique, décolonisé et inclusif. Le féminisme ici est compris comme un imaginaire. Pour utiliser le mot d'un sociologue palestinien qui s'appelle Sari Hanafi, qu'il a utilisé pour l'universalisme, au fait, et non comme un féminisme, le féminisme comme imaginaire et non comme un système normatif contraignant. Donc, après son retour des États-Unis en 1974, ayant achevé son doctorat en sociologie de l'université de Brandeis, aux États-Unis, Mernissi a été une des sociologues pionnières à réaliser des interviews avec des segments de femmes dont la voix était jusque-là inaudible. Les paysannes, les ouvrières, les artisanes, les tisseuses, les domestiques de maison et les femmes qui fréquentent les marabouts et les sanctuaires. Donc, toutes les femmes illettrées. Ces études de terrain dans les années 70 et début 80 représentent une des premières analyses critiques du capitalisme et du patriarcat et de leur enchevêtrement au Maroc et dans le monde à cette époque. Cette perspective est déployée dans des textes souvent mal connus comme « The Degrading Effect of Capitalism on Female Labor in a Third World Economy le prolétariat féminin au Maroc », Nissa El-Gharb, Zohor's Word, Moroccan Domestic Worker Speaks Out, où Zohor, une employée de maison, parle haut et fort, et le Maroc raconté par ses femmes. Donc ces écrits ont non seulement mis la lumière sur le travail des femmes et son invisibilisation, il représentait aussi une plateforme pour ces femmes pour raconter le Maroc dans leurs propres termes. Cet aspect du travail de Mernissi est bien sûr très pertinent pour le féminisme aujourd'hui, qui doit être faire plus attention, bien sûr, au néolibéralisme et donner plus d'espace aux voix des femmes ordinaires pour raconter leur vécu et leurs aspirations dans le langage qui leur est propre, ce qui est important pour un but, pour ne pas décoloniser leur voix, mais aussi pour enrichir le féminisme lui-même. Les écrits de Mernissi ont introduit dans le champ de la sociologie au Maroc les women's studies, comme il a été noté par les sociologues Hassan Rachir et Rahma Bourkia. Donc, la nouveauté de cette démarche centrée sur les femmes dans le champ de la sociologie au Maroc, qui était à l'époque à vocation marxisante, lui a valu des critiques de la part de ceux que Mernissi a désignés comme marxistes dogmatiques et qui lui reprochaient que son approche constituait un affaiblissement de la lutte des classes, auquel elle a rétorqué que les classes ont aussi un sexe, elle a dit. Donc, les travaux ethnographiques de Mernissi ont mis la lumière sur la diversité des expériences féminines en montrant comment des femmes font face à une oppression complexe qui les place dans l'intersection de plusieurs conditions défavorables, comme l'analphabétisme, la pauvreté, le chômage, ou l'enclavement géographique, en plus du sexisme et du patriarcat. On peut dire qu'elle a introduit, en mettant la lumière sur l'imbrication de la classe et du genre, ou patriarcat et sexisme, on peut dire qu'elle a introduit le concept d'intersectionnalité, bien avant que ce terme soit mis en circulation dans les années 80 aux États-Unis. Intersectionnalité. Donc, dans le même but d'amplifier la parole des femmes marginalisées, Manessier a quitté la sociologie pour l'étude de la culture populaire, l'histoire et la production littéraire, pour sonder ce qu'on peut appeler une conscience féminine subalterne. C'est ainsi qu'elle a écrit sur le conte d'Aïcha Jarma, dans « Qui l'emporte, la femme ou l'homme ?», publié en 1983, sur « Les sultanes oubliées », dans un ouvrage qui porte le même titre, en 1990, et sur « Les femmes du harem », dans son roman « Rêve de femme, une enfance au harem ». Elle s'est aussi intéressée au tapis, à la peinture, à l'art et à l'artisanat produits par les femmes exclues encore de la scolarité et qui, pour elle, avaient une imagination, comme j'ai dit, qui est intéressante. Pour un chercheur comme Marnesi, qui veut recueillir la parole des femmes illettrées et les femmes qui n'ont pas laissé de traces écrites, la fiction est apparue aux sociologues comme mieux équipée pour la renseigner sur ce réel féminin que les livres d'histoire qui sont bien souvent écrits à partir d'une perspective biaisée, masculine. Et on peut dire que pour être fidèle au réel, Manessi a dû faire appel à la fiction. Donc, à part le désir de donner la parole à la femme subalterne, la deuxième raison de cette excavation était de démontrer l'endogénéité du féminisme, qui est évidente, par exemple, dans le titre qu'elle a donné à l'introduction du conte Aïcha Jarma, le titre est « La contestation féminine ne vient pas de Paris ». Donc, cette double motivation, c'est-à-dire donner la parole aux femmes qui n'ont pas laissé de traces, et la motivation de montrer que le féminisme est endogène et non pas qui vient de Paris d'ici. Donc cette double motivation n'est pas son problème. Elle crée des tensions. Parce qu'en s'appuyant sur les similitudes entre le féminisme et la femme subalterne, la femme ordinaire, cela obscure les relations de pouvoir entre ces deux identités et les problèmes de représentation qui peuvent produire un effet inverse, c'est-à-dire la non-audibilité des femmes subalternes. Cette limite, chez Marnesi, doit nous pousser à toujours s'interroger, comme elle l'a fait, sur notre positionnement de privilège et d'autorité en tant que chercheur féministe ou activiste, afin de continuer le projet initial et fondamental de Marnesi, qui est celui du combat contre le démon du silence. Un autre caractère de travail de Marnesi qui peut nous intéresser aujourd'hui, et pour continuer à réfléchir sur un féminisme plus proche du vécu féminin, et la fluidité des positions et approches que Marnesi a adoptées, comme il paraît clair dans ses travaux dans les années 80 sur l'islam et les droits des femmes, dont Mariam vient de nous en parler. Donc, en 1987, elle publie, avec la publication de son livre « Le harem politique, le prophète et les femmes », elle décide encore une fois de quitter le territoire de la sociologie pour entreprendre des relectures des textes religieux à partir d'une nouvelle perspective qui est à la fois féministe et religieuse, désignée par le terme de « féminisme islamique », bien sûr, elle n'a pas revendiqué ce label pour elle, abandonnant ainsi sa position laïque, séculariste, adoptée dans le début de sa carrière. Cette nouvelle perspective lui a valu d'être critiquée, comme Mariam en a parlé, de la part de quelques féministes que je qualifierais, à l'instar de Fatema al-Mernissi, de féministe dogmatique, à l'instar de marxiste dogmatique, qui lui a reproché de produire un féminisme mou. Mais le nouveau discours féministe que Mernissi a articulé semblait avoir plus d'efficacité et plus de succès parce qu'il a été repris, réapproprié par d'autres femmes au Maroc et dans le monde qui ont entrepris de briser le monopole masculin sur l'exégèse religieuse en revisitant les textes fondateurs afin de produire de nouvelles interprétations plus égalitaires, comme c'est le cas de Asma al-Marabet au Maroc ou de Moussaoua pour l'égalité de la femme musulmane qui opère au niveau transnational. C'est un mouvement transnational. Donc, l'autre tournant majeur de la pensée de Mernissi et qui est très instructif pour le féminisme au Maroc aujourd'hui est l'intérêt accru et engagé qu'elle a porté à la société civile. À partir des années 90, après la guerre du Golfe, afin de non seulement contrer le récit hégémonique de la guerre basé sur l'idée d'exporter la démocratie au monde arabe, mais aussi pour accompagner son essor. C'est ainsi qu'elle s'est tournée aux actions civiques des femmes et des jeunes. C'est Sindbad, comme elle les appelait, et leur accès aux médias, aux technologies de l'information, et cela non seulement dans les métropoles urbaines, mais aussi dans le monde rural.
Vous avez...
Voilà, donc c'est l'idée derrière ces projets de caravane civique, synergie civique, où des intellectuels, des bailleurs de fonds se côtoient et les femmes rurales et leur communauté se côtoyaient et travaillaient sur des projets ensemble. Ce qui est intéressant aussi dans ce genre d'activité, c'est que Mernissi n'aimait pas essayer de rendre les gens conscients de leurs privilèges, de leur position de privilège. Et il y a un témoignage de quelqu'un qui a pris part aux caravanes où il dit « Il n'y avait pas de célébrité dans les caravanes de Fatema ».
Célébrité.
Tout le monde était sur le point égal. Donc, aussi un projet où elle a travaillé avec, qui s'appelle the Casablanca Dream, qui est lancé par une activiste et intellectuelle indienne sur un projet de réflexion sur le développement et son impact sur les femmes dans la pauvreté au sud. Et ce qui est intéressant, c'est que Mernissi était là et était accompagnée avec une femme, une tisseuse. Et pour moi, ça traduit sa conscience, la réalisation de Mernissi qu'on ne pouvait pas parler au nom des femmes, surtout pour ces gens. Donc ça... cette philosophie est claire, je vais peut-être terminer par ça, avec une citation dans son livre « Doing Daily Battles » où, je cite, elle dit « Il est nécessaire d'éviter de généraliser, d'éviter de projeter sur les femmes pauvres nos propres préoccupations et nos problèmes, et surtout de faire notre travail d'intellectuel. Par ceci, je veux dire de développer notre capacité d'écoute pour être sûr que l'on écoute tout, même ses choix qui ne correspondent pas à nos théories et à nos beaux concepts. » Donc enfin, et en guise de conclusion, je dirais que le projet de Mernissi est d'entretenir le vivre ensemble, et Mariam en a parlé, qui est aussi le nom qu'elle a donné à un de ses projets à partir de 2012, dont l'objectif est de cultiver, je cite, la culture du dialogue, de décloisonner le rapport avec les jeunes et la société civile, et de combattre un élitisme intellectuel déconnecté des réalités locales. Je cite Driss Kikes ici. Pour cela, elle a brisé toutes sortes de frontières disciplinaires, académiques, idéologiques et théologiques, Mais son esprit, souvent rebelle, indiscipliné, avant-gardiste, ne l'a pas conduit à se déconnecter de la société ou des questions conjoncturelles qui préoccupent celle-ci ou qui préoccupent le monde en général. C'est-à-dire que sa pensée et son combat étaient toujours inscrits dans la conjoncture afin de comprendre et d'intervenir sur les enjeux du moment, loin de tout utopisme. Donc, c'est pour ça que je parle de féminisme comme imaginaire, mais pas comme normatif. Car elle a réalisé que l'ennemi du féminisme et du libéralisme n'est pas seulement le conservatisme et le fondamentalisme, mais c'est aussi l'élitisme. Et car il est porteur de non-dialogue, d'altérisation, adrine, ou stigmatisation, qui produit de l'aliénation, produit de retour en arrière, et dans le pire scénario, violence, dont les premières victimes ne seraient que les femmes. La pensée de Fatema al-Madnissi, marquée par sa volatilité, sa transversalité et son interdisciplinarité ou indisciplinarité, loin de toute pensée normative ou dogmatique, est certainement un modèle à méditer pour le féminisme aujourd'hui et une source d'inspiration pour tous les Sinbad, afin de continuer son combat contre le démon du silence et pour le vivre ensemble. Merci.
Merci, Raja Rouhani. Je donne la parole à Mariam Rodari pour nous parler du travail qu'a fait Fatema al-Madnissi avec les femmes laborieuses de ce pays, ces paysannes, ces artisanes, ces femmes invisibles. Voilà. Merci.
C'est vrai que mon titre était très ambitieux. Et puis en écrivant, j'ai décidé de recentrer un petit peu parce que c'est très large. Je vais quand même rester sur la question du travail des femmes pauvres, bien sûr, qui est aussi le thème de mes recherches. Donc moi, j'avoue que Fatema al-Madnissi, je la connais surtout sur ces thèmes-là. Donc beaucoup moins dans la phase, la troisième phase qu'a évoquée Mariam ici. Donc quand j'ai commencé ma thèse, c'était fin des années 90, début des années 2000, sur le travail des femmes pauvres d'un quartier populaire de Marrakech. Déjà, la majorité des femmes de ce quartier étaient déjà pauvres, mais j'insiste quand même sur les femmes avec qui j'ai travaillé, étaient particulièrement défavorisées. Donc, j'ai rencontré d'abord les écrits de Fatema al-Madnissi, comme beaucoup ici, de ce côté de la Méditerranée, à travers sexe, idéologie, islam. Pourquoi ? Parce que bien que pour moi c'était très clair dès ma maîtrise que je m'intéressais vraiment aux activités des femmes, on m'a poussée de toutes parts à lire beaucoup de choses et à parler de beaucoup de choses autre chose que le travail, c'est-à-dire la sexualité, les rites, les cérémonies de mariage, voire même on me poussait à faire des recherches sur les sept saints de Marrakech, qui n'étaient pas du tout mon intérêt au départ. Et donc je lisais beaucoup de choses, notamment sur tout ce qui concernait la sexualité au Maghreb. C'est pas pour dire que c'est inintéressant, mais c'était quand même assez éloigné de mes thèmes. Donc je suis arrivée comme ça à sexe, idéologie, islam. Et c'est pas l'ouvrage qui m'a le plus inspirée par rapport à mes recherches, mais j'ai quand même été marquée par ce titre qui ne reflète pas vraiment le contenu, je trouve, du livre. Et d'ailleurs, le premier titre n'avait pas grand-chose à voir. On remarque quand même que dans une édition française, j'imagine qu'il y a une politique éditorialiste derrière. Il faut tout de suite mettre sexe quand on parle d'islam en premier, et idéologie. Enfin, vraiment, les trois termes sont vraiment très représentatifs de tous les stéréotypes autour des femmes maghrébines, du point de vue francophone et français plus particulièrement. Donc il m'a fallu encore du temps et de la persévérance pour dénicher d'autres écrits de Fatema al-Madnissi qui m'ont été beaucoup plus utiles dans mes recherches. Donc surtout des articles, des chapitres d'ouvrages collectifs et surtout ce rapport du BIT, alors que j'ai toujours dans son enveloppe originale, parce que il y a une gentille employée du Bureau international du travail qui me l'a envoyé par la poste. J'ai retrouvé la date, donc 25 septembre 2002, c'est la date à laquelle je l'ai reçue, qui date de 81. Donc je cite quand même le titre pour ceux qui ne le connaîtraient pas forcément, qui s'appelle « Développement capitaliste et perception des femmes dans la société musulmane, deux points, les paysannes du Ralb ». Apparemment, quelqu'un m'a dit qu'il avait été repris en partie dans un écrit de Fatima Mernissi, mais je n'ai pas retrouvé la référence. Donc, si quelqu'un le connaît, ça peut être intéressant. Dans ce rapport, notamment, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans d'autres articles donc, que Raja a cités. Et je m'intéresse au titre parce que, en effet, en anglais, The Degrading Effect of Capitalism on Female Labor in a Third World Economy, c'est-à-dire l'effet dégradant du capitalisme sur le travail féminin dans une économie du tiers-monde. Le cas particulier des artisanes au Maroc. Un autre titre, Women and the Impact of Capitalist Development in Morocco. Donc il y a deux parties de cet article-là qui sont parues dans Feminist Issues. Les femmes et l'impact du développement capitaliste au Maroc. Tout ça sont des titres qu'on retrouve très peu dans les articles ou encore plus dans les ouvrages qui ont été publiés de Fatima Mernissi, même si parfois ça reprend, au moins une partie de ces articles sont repris, mais on voit bien qu'il y a en français, c'est beaucoup plus euphémisé. Donc, il y a le prolétariat féminin au Maroc, c'est vrai. Comment priver une ouvrière de son salaire minimum ? J'ai beaucoup aimé ce titre aussi. Mais c'est vrai que le côté économique et l'articulation avec le capitalisme est beaucoup moins évident dans les titres en français, globalement. Voilà. Ça a été aussi pour moi, Fatima Mernissi, ça a été un biais par lequel j'ai découvert d'autres auteurs à l'époque. Donc j'étais une spécialiste des notes de bas de page parce que tout ce que je trouvais sur le travail des femmes au Maroc, c'était toujours en notes de bas de page. Et donc j'ai découvert notamment un mémoire de DES, pardon, en sciences économiques. Alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, ça date de 83, en plus j'imagine que le système universitaire a dû changer aussi depuis.
C'est Master 2, non ?
C'est une sorte de, oui, Master 2, comme DESS un peu ici. Donc Fadela Benis, approche du travail féminin, et puis on a la thèse de Nadira Barkhalil en 90, la naissance et le développement du prolétariat féminin urbain, qui sont donc une thèse et un mémoire, évidemment, qui n'ont pas été publiés tels quels, en tout cas, et qui sont des sources sur l'histoire, notamment, du travail des femmes au Maroc, vraiment inestimables, dans la période coloniale et même avant la colonisation. Voilà, donc... ici, je vais m'arrêter sur deux points, deux arguments plutôt de Fatima Mernissi qui m'ont été particulièrement bénéfiques pour moi dans ma réflexion, particulièrement donc sur cette question du travail des femmes pauvres. C'est d'abord la mise en évidence du rôle du discours nationaliste marocain dans le maintien, alors d'une part des structures patriarcales, mais aussi dans la dévalorisation des femmes de classe populaire et de leurs activités. Ce rôle, évidemment, dans la pensée de Fatima Mernissi, c'est en continuité du discours colonial, mais là, je vais plus... c'est pas pour dire que les nationalistes ont plus de responsabilités, mais je vais plus développer ce qu'elle a dit sur le discours nationaliste qui concerne plus particulièrement la question des activités des femmes populaires. Et puis le deuxième argument de Fatima Mernissi qui m'a beaucoup intéressée, c'est la question de plusieurs discours, donc évidemment dont tu as beaucoup parlé déjà, donc de plusieurs discours dissonants au Maroc concernant les expériences des femmes en général et surtout des femmes populaires. Donc ce qu'elle appelle le discours sonore masculin et le discours féminin. Et notamment en ce qui concerne leur rôle économique. Alors évidemment, ces deux arguments que je viens de citer ne sont pas propres à Fatima Mernissi. Ça s'inscrit dans tout un ensemble de recherches à l'époque, et notamment américaines. La question du discours était déjà beaucoup développée, évidemment, plus dans les recherches anglophones. Et enfin, pas seulement dans le champ des recherches américaines, mais anglophones, mais ces deux termes-là, ces deux arguments, pardon, ont été développés. Par ailleurs, ce qui m'intéresse dans les écrits de Fatima Mernissi là-dessus, c'est qu'elle les a vraiment articulés avec le contexte marocain, ce qui était rare, et aussi dans une perspective historique. Et surtout à l'époque, c'était vraiment une perspective, enfin, cette double approche était assez unique. Donc à l'époque, je parle là des débuts des années 80. Alors d'abord sur le discours nationaliste, je surveille l'heure en même temps parce que... donc elle va montrer que le discours des nationalistes marocains reproduit les hiérarchies de genre et de classe en même temps. Elle cite Alal El Fassi, donc dans son autocritique, pour illustrer les limites dans lesquelles les nationalistes entendaient libérer les femmes. Donc je cite Alal El Fassi, « La femme a le droit de réclamer l'égalité avec l'homme dans tous les domaines où cette égalité ne rentre pas en contradiction avec la nature des choses. » C'est ainsi qu'elle peut participer à l'intérêt général par le travail, la réflexion et le conseil, quand même. Elle peut occuper un poste de travail dans les activités sociales, économiques et politiques dans la communauté et l'État. Et tout ce qu'on dit sur son incapacité n'est qu'une séquelle des générations de domination et de siècles de décadence. Pour Fatima Mernissi, donc, ce paragraphe, il trace clairement les limites bourgeoises du monde rêvé par le nationalisme. Je cite Fatima Mernissi, pardon. Donc, les limites bourgeoises du monde rêvé par le nationalisme du début du siècle et qui peuvent se résumer en deux points. Premier point, pour Alal El Fassi, il y a une dimension naturelle de l'inégalité entre les sexes qui ne doit pas être remise en cause. Donc, il s'agit uniquement d'aménager le principe de l'inégalité sexuelle existant dans le Coran, mais non de l'abolir. Mernissi pose donc la question, je suis en intimité là, on dirait, en quoi consistait la libération de la femme ? Elle met entre parenthèses libération de la femme. Elle consistait à libérer les femmes recluses qui sont précisément celles de la bourgeoisie et petite bourgeoisie citadine qui étaient leur propre classe. Elle poursuit, dans le Maghreb du début du XXe siècle, à 90% rural, les paysannes étaient dévoilées et travaillaient dans les champs du matin au soir comme elles l'ont fait pendant des siècles avant les nationalistes. Mais ceci était totalement aveugle au fait que les femmes rurales, les femmes du peuple, travaillaient dans le rural comme dans les cités musulmanes. Pardon. Pour eux, le travail manuel des femmes pauvres n'était pas perçu comme un travail. Et elle note que cette vision va se repercuter dans les lois qui vont être promulguées après l'indépendance. Donc le deuxième point pour Fatima Mernissi du discours nationaliste, je cite encore une fois, le genre de travail qu'Alal El Fassi, le leader nationaliste, revendiquait pour la femme est un travail bien particulier. Il s'agissait du travail propre, du travail qui demande une éducation formelle, des diplômes, du travail non manuel salarié, exécuté hors du foyer, dans le secteur moderne de production, dans les institutions sociales, économiques et politiques. Donc c'est la dimension de classe là, qu'elle va mettre en évidence. Il s'agit évidemment... Il va s'agir après donc des fonctionnaires qui travaillent avec l'État, les collectivités, notamment dans l'enseignement. Cette définition, donc, pour Fatima Mernissi, trace les contours d'une nouvelle catégorie de femmes qui va se créer après l'indépendance, une classe petite bourgeoise féminine centrée dans les villes. Et elle y voit l'origine en partie de la cécité des planificateurs et des technocrates envers le travail manuel des femmes paysannes et des femmes pauvres des cités, qui se manifeste notamment dans les recensements et dans les plans de développement. Fatima Mernissi, donc, les nationalistes vont reprendre non seulement les catégories de la pensée coloniale, mais alors que sous la colonisation, l'opposition donc faite par le discours colonial, c'est-à-dire entre tradition et modernité, elle était essentiellement associée à celle entre colonisateur et colonisé, donc colonisateur moderne, colonisé tradition. Avec l'indépendance nationale, cette division va être associée à une division de classe. Donc c'est un processus qui va renforcer les inégalités en termes de classe entre femmes. Et là, Fatima Mernissi va aussi développer le rôle de la bonne et la relation particulière qui va se forger donc entre cette femme bourgeoise et la bonne. Donc elle note l'émergence d'une relation de domination et d'exploitation que ce groupe maintient avec le reste des masses féminines incarnées par la relation avec la bonne à domicile. Ce qui fait conclure à Fatima Mernissi que l'émergence de la bourgeoisie féminine par le biais du diplôme et du salaire constitue une rupture dans les perceptions des rôles de sexe avec des conséquences qui auraient pu être déterminantes si elles n'étaient pas fortement articulées à l'inégalité de classe. Donc l'émergence de cette bourgeoisie féminine aurait pu bouleverser les rapports entre sexe et classe dans cette société, mais comme cet accès a été réservé à une élite de femmes citadines appartenant aux hommes puissants du pays, elle a eu au contraire comme effet la dégradation encore plus grande des femmes pauvres en tant que travailleurs manuels dans les secteurs traditionnels. Deuxième point que je vous annonçais, donc, c'est la question du discours féminin et discours sonore masculin. Voici comment Fatima Mernissi a défini ce terme de discours masculin sonore. C'est celui qui retentit dans la législation et les médias qui sont des instruments étatiques. Excusez-moi, là je cite Le monde n'est pas un harem, parole de femme du Maroc. Alors, moi, j'avais noté que la première édition était Le Maroc raconté par ses femmes. Quelqu'un m'a dit que non, c'était deux ouvrages différents, mais c'est à vérifier.
Oui, c'est deux ouvrages.
Alors, peut-être que j'ai fait une confusion, mais j'avais noté sa première édition, Le Maroc.
Le Maroc raconté par ses femmes.
Oui. Le monde n'est pas un harem.
Oui, c'est normalement.
C'est le même.
Oui, c'est le même.
Oui, c'est ça, d'accord. Donc dans cet ouvrage, donc la première édition date de 84, elle dit ceci, donc le discours masculin sonore, c'est celui qui retentit dans la législation et les médias qui sont des instruments étatiques. Je préfère utiliser sonore à dominant parce que le discours dominant suppose l'existence d'autres discours qui lui sont discordants, contradictoires. Or, dans le Maroc actuel, malgré l'existence d'autres discours masculins, et notamment des discours des intellectuels progressistes qui sont souvent en rupture avec le discours dominant, ceux-ci ne se font guère entendre. On n'entend qu'un seul son de cloche, celui du discours sonore. Il vocifère tellement et il dispose de moyens tellement puissants qu'il rend inaudibles les discours progressistes. Dans les entretiens qu'elle va retranscrire dans cet ouvrage, donc Le monde n'est pas un harem ou Le Maroc raconté par ses femmes, elle constate donc qu'il y a divorce total entre le discours féminin et ce discours masculin sonore au niveau de plusieurs choses, donc la perception au moins de trois phénomènes, les rôles sexuels, le couple et la contraception. Je m'arrête donc sur ce qu'elle appelle les rôles sexuels, puisqu'elle parle du rapport des femmes à l'économie. Elle nous dit que ces femmes, donc les femmes qu'elle a interrogées dans cet ouvrage, comme dans beaucoup d'autres, ce sont en effet des ouvrières, des artisanes, des domestiques, etc. Des femmes illettrées, comme l'a noté Raja. Donc pour ces femmes se perçoivent comme des agents économiques, selon les termes de Fatima Mernissi. Elle note l'auto-valorisation des femmes en tant qu'agents économiques. Toutes, sauf une qui était, entre guillemets, emprisonnées dans un harem, se perçoivent comme participant activement à la vie économique de la famille. Il s'agit donc de femmes illettrées ou qui n'ont eu accès qu'à quelques années de scolarisation, et la plupart ont commencé à travailler dès 5 ou 6 ans. Dans le monde rural, je cite Fatima Mernissi, dans le monde rural, elles participent aux travaux des champs, au gardiennage des animaux, ainsi qu'à la corvée d'eau et de bois. Dans le monde citadin, elles sont placées dans d'autres familles ou bien en apprentissage chez une marraine. C'est tout à fait le genre de parcours que j'ai aussi rencontré moi-même dans le cadre de mon terrain de thèse. Donc, j'ai travaillé sur les femmes qui sont Negaf et Nkashat, donc les femmes qui travaillent dans les cérémonies de mariage. Et une femme me racontait de cette façon. J'ai étudié jusqu'à la quatrième année primaire, puis je suis sortie de l'école et je suis entrée chez l'ama alma. Là, j'ai appris la couture, le tricot. Avant, je ne faisais rien. Ensuite, je me suis mariée à 16 ans. Je suis restée un peu et puis, allez, j'ai commencé. J'ai appris le nokesh, donc c'est l'art du henné en premier. Et après le nokesh, j'ai commencé la coiffure. Et après la coiffure, ça y est, j'ai commencé le tangef, c'est-à-dire les femmes qui louent les robes, etc. Et je lui pose la question, tu as commencé le nokesh et le salon avant ton mariage ? Non, j'étais déjà mariée quand j'ai commencé. Quand je me suis mariée, je ne faisais rien. Je restais à la maison et je faisais le tricot et le crochet. Les gens venaient, je travaillais pour eux. Après, quand je me suis mariée, j'ai commencé dans un salon. C'était le premier. Je travaillais avec les filles dans le salon. J'ai commencé comme ça au salon. Et ensuite, j'ai commencé à aller chez une amie à moi qui était Nkasha. Je lui ai dit, je veux aller avec toi apprendre le Nkesh. Elle m'a dit, allons-y. J'ai noté ça parce que pour dire que même quand elle dit, je faisais rien, en fait, elle faisait quelque chose. Elle faisait, enfin, en plus des tâches ménagères, le tricot et le crochet, donc des choses qu'elle échangeait, qu'elle vendait à des personnes qui venaient chez elle. Donc toutes les femmes que j'ai interrogées avaient eu en tout cas d'autres activités avant de commencer les activités dans lesquelles je les ai trouvées. Et donc elles ont travaillé en usine, dans les ateliers de couture ou bien pratiqué des activités artisanales, surtout broderie et tapis. Alors, Fatima Mernissi, pour revenir à son discours, elle note qu'à l'opposé de ce discours féminin, donc, qui valorise leurs activités et leur rôle économique, l'État, appareil de décision en matière de planification et de législation, perçoit, lui, l'homme comme le pilier de la famille, son pourvoyeur principal et l'unique membre actif en son sein. C'est ainsi que toute politique de création d'emploi, que ce soit dans le monde rural ou urbain, est centrée sur la création d'emplois masculins. Cela explique aussi pour Fatima Mernissi l'échec de la politique de scolarisation et de formation professionnelle des femmes, puisque les rares politiques en matière de promotion féminine sont conçues pour une femme au foyer qui est inexistante dans les couches pauvres, pourtant couche cible de ces programmes. Cela explique aussi pour elle le discours insensé tenu depuis 1975 sur la nécessité d'intégrer les femmes dans le développement, puisque, comme on l'a bien compris, pour Fatima Mernissi montre qu'elles sont intégrées dans le développement depuis longtemps. Elle note aussi, j'ai remarqué une chose intéressante, la différence avec l'Afrique subsaharienne, où les statisticiens à l'époque, donc toujours en 81, estiment le taux d'activité féminine à plus de 40%, alors que pour ce qu'elle appelle donc l'Afrique arabe, ce même taux d'activité est estimé à moins de 8%. Et pourtant, à l'opposé, les paysannes du RAB qu'elle interroge dans ce rapport répètent que leur vie est une corvée. Je cite, et excusez-moi pour mon accent, « Hayatna kolha shka ». C'est shka, la tâche, c'est ça. Je voulais montrer à la fois que, bien qu'elle soit plus connue pour ses réflexions sur la sexualité et aussi le rapport des femmes à l'islam, l'économique est vraiment pour moi au centre de la pensée de Mernissi. Elle a mis en évidence les aspects matériels de l'oppression des femmes. Donc il y a une approche matérialiste très claire dans beaucoup de ses œuvres. Qui va se traduire de deux manières, à mon sens. D'abord, son travail de terrain, et je trouve que Raja l'a très bien mis en évidence aussi, c'est-à-dire qu'elle a enquêté auprès de femmes des classes populaires, à la campagne comme à la ville. C'est le cas, par exemple, donc, de l'article des paysannes dans la ville. Et pour l'époque, particulièrement, c'était vraiment exceptionnel. Déjà, cette dimension de terrain qu'on trouvait dans peu d'études, de toute façon, que ce soit sur les femmes ou pas, et sur les femmes, l'essentiel des études se portait sur les aspects juridiques, psychologiques, les représentations beaucoup plus que sur cet aspect de vie quotidienne. Et puis au niveau de l'analyse, donc, elle va mettre en avant l'importance des aspects économiques dans l'oppression des femmes, donc une approche clairement matérialiste. C'est aussi, je voulais ajouter, mais comme Raja l'a déjà développé, c'est aussi pour moi une pensée intersectionnelle avant l'apparition de ce terme, puisque dans sa pensée, il y a clairement l'articulation entre sexe, classe et colonialisme. Et je voulais juste citer quand même un passage de ce fameux rapport du BIT. Un socialisme, donc elle était vraiment en dialogue à cette époque-là, effectivement, avec les marxistes, comme les féministes en France à la même époque, enfin un petit peu avant, mais quand même à la même époque. Un socialisme arabe où la lutte contre l'inégalité sexuelle n'est pas une condition sine qua non de la lutte contre l'inégalité sociale est une entreprise douteuse où l'enjeu, même s'il se drape sous la légitimité de l'islam, est définitivement le maintien des privilèges et non leur disparition.
Merci, Meryem Rodar. La parole à Aurélie.
Voilà, je vous remercie beaucoup.
Cette dernière partie de
voilà,
la session.
Et je vais aussi commencer par une anecdote qui reflète aussi peut-être un peu le ton qui a été présent durant cette première session. C'est que j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer Fatima Mernissi lors d'une de ces caravanes civiques, parce qu'effectivement, moi, j'ai préparé une thèse de doctorat sur la question du discours et de la place réelle des femmes dans les projets de développement. Donc, c'était entre 1999 et 2005. Et on pouvait effectivement voir cette volonté de Fatima Mernissi d'être en situation de proximité avec un certain nombre de femmes qui travaillaient dans les zones rurales, et aussi un discours de critique déjà à l'égard des différents bailleurs de fonds qui étaient très présents dans toute la région du sud du Maroc notamment. Mais voilà, pour dire aussi, hein, ça a été évoqué, cette dernière période de Fatema Mernissi sur sa critique des institutions internationales et parallèlement sa curiosité pour toutes les initiatives féminines, mais plus largement les initiatives de ces personnes dans les zones rurales, auquel elle a consacré aussi un petit ouvrage qui avait un certain succès dans les années 2000, qui est le petit ouvrage « Haït débrouille », où elle met aussi en valeur non seulement le travail des personnes qui sont impliquées localement dans certains villages du Haut Atlas, mais aussi le rôle de passeur que peuvent avoir certains intellectuels ou chercheurs à partir du moment où justement ils cherchent à mettre en perspective la dimension réelle du travail des personnes, comme pouvait l'être aussi Ali Amaran, qu'elle cite beaucoup dans ce travail sur les haïts débrouilles. Donc voilà, ça c'était pour faire aussi le lien et montrer que voilà, dans ces trois interventions, on voit cette curiosité débordante et qui à la fois abolit les frontières disciplinaires, propose aussi donc des relectures, que ce soit de l'islam, mais aussi d'un certain nombre de perspectives sur le féminisme, sur le travail. On voit même à travers l'intervention de Meryem Rodari qu'elle critique la production des données statistiques qui invisibilisent complètement le travail des femmes au Maroc. Et donc, je chercherais plutôt à souligner la façon dont c'est une pensée qui est très, très riche et qui cherche aussi à déconstruire cette image de la femme, telle que c'était vraiment présenté, la femme marocaine ou la femme maghrébine comme passive. Et donc, à travers tous ses écrits, y compris ceux sur le harem, elle montre bien comment il y a une agentivité, une présence des femmes. Et ce que tu racontes aussi, Meryem Yafout, sur le... sur cette façon dont, dont sa, la pensée même de Fatema Mernissi a, a fait l'objet de réceptions différentes, montre aussi la complexité de son approche et puis aussi voilà, son, son propre cheminement, hein, parce que je pense que sa critique de, du capitalisme et de l'impérialisme n'a fait que croître aussi face à cette à la fois peut-être plus grande présence de l'impérialisme et cette discours, ce discours d'homogénéisation des femmes marocaines et plus largement qui était insupportable et donc pour lequel elle, voilà, elle, elle a beaucoup œuvré. Et donc moi j'avais aussi une question un peu plus large parce qu'on voyait à travers tout ce que vous avez présenté qu'il y avait aussi beaucoup de travail méthodologique, hein, vous avez commencé Raja en, en expliquant quelle était votre, votre prof de méthodologie et vous avez tout montré hein, comment elle a aussi créé des ponts en termes de méthodologie hein, en, en discutant aussi le, voilà, le, l'importance de l'histoire pour aborder la sociologie, pour aborder la littérature. Et donc voilà, j'avais une question un peu ouverte pour vous trois. Hein, quel, qu'est-ce que vous pensez que, qu'on peut voir comme forme de transmission là actuellement, hein, que ce soit dans les universités ou à un niveau plus, plus général de, des travaux de Fatema Mernissi. Hein, elle, a, elle a été traduite aussi beaucoup.
Oui, 25 à 30 langues.
Voilà, mais est-ce que, enfin, ça c'est une question aussi voilà, ouverte, est-ce que on l'enseigne maintenant à l'université enfin, et sous quelle forme et, voilà. En tout cas, merci beaucoup de vos présentations.
Je vous présente, parce que j'ai. Je voulais dire combien je suis heureuse d'entendre tout ce qui a été dit par les différentes intervenantes qui montrent d'une part la richesse de la pensée de Fatima et aussi combien elle a un écho divers dans la société maghrébine et occidentale aussi. Et je voudrais rappeler que je suis probablement ici la personne qui a connu Fatima depuis le plus longtemps. 1960, elle avait, j'étais à ce moment-là envoyée par le groupe d'ethnologie sociale pour faire une enquête au Maroc dans le cadre d'une enquête internationale sur le travail professionnel des femmes. Mais moi, je n'étais pas arabophone et j'ai cherché une traductrice. Et j'ai vu une belle jeune fille à Fès qui s'est proposée. Elle venait de sortir du lycée. Et on a travaillé ensemble pendant 2 mois. On s'est liés d'amitié. Et quelques années après, enfin même assez longtemps, je crois que c'est dans les 80, elle est venue à Paris et elle a déclaré que c'était cette, ce travail qu'elle avait fait avec moi qui lui avait donné envie. Elle veut dire, ah mais c'est chouette de gagner sa vie comme ça. Elle avait été passionnée par, par ce travail. Donc pour moi, c'est très émouvant. Et je voulais en profiter pour signaler que cette enquête qui avait un volet travail professionnel des femmes qui a été publié dans un petit bouquin publié par les éditions ouvrières et où Fatima est, est citée, ça doit être la, la première fois où on a cité Fatima, avait un autre volet qui était sur le, la vie familiale et le mariage et que je tiens les documents qui me restent de cette enquête qui n'a pas été exploitée, je le tiens à la disposition de personnes qui pourraient être intéressées.
Merci. Je suis comblée ce matin. Vraiment. C'est très riche. C'est, en même temps, c'est... Comment on dit, c'est à la limite. C'est la richesse intellectuelle qui nous fait vraiment... qui peut vraiment interpeller notre émotionnel. C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment. Alors, et donc, effectivement, de ce panel... sort, je dirais pas la complexité, mais en fin de compte la difficulté de cataloguer, de répertorier un auteur comme Fatima Mernissi. C'est vraiment à ce moment-là, on sent que parfois la typologie classique ne rend pas compte, et c'est peut-être que la typologie c'est quelque chose en fin de compte de très artificiel Et donc c'est pour ça que quand on parle, est-ce que c'est une féministe islamique, c'est pas une féministe islamique, laïque et tout ça, vraiment, je trouve que ça prouve qu'à ce niveau-là, nous peinons à établir une typologie des féminismes qui existent. Donc ça, c'est un premier feedback. Une question à Mariam, et vraiment, Mariam, je te remercie, parce que vraiment, tu as parlé d'une question qui est peut-être pour nous, assez problématique, le féminisme islamique, c'est quoi et tout ça, mais tu as un peu dépassionné le débat, et ça, je te remercie. Alors, mais quand même, moi, je demeure toujours, c'est une question qui me tourmente, qu'est-ce que c'est le féminisme islamique? C'est une question. Parce que jusque-là, pour moi, je n'ai pas trouvé de réponse. En tout cas, en Tunisie, je ne trouve pas de réponse parce que je suis allée vers les femmes les femmes islamistes qui se disent féministes et je n'ai pas trouvé vraiment de concept, je n'ai pas trouvé de truc. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que féminisme ? C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est à propos de l'interdisciplinarité. Parce que le panel, c'est sociologue féministe, et là, on arrive à la fin, elle est historienne, elle est à la limite, elle a fait des incursions dans l'économie. Donc, qu'est-ce que c'est, en fin de compte, c'est ça, c'est ce concept de sociologue féministe qui nous interpelle, qui c'est au-delà, je ne dis pas au-delà de sociologie, mais ce n'est pas la sociologie classique, tel que l'enseigne, mais ce n'est pas non plus le féminisme coupé de l'universel. Donc, en fin de compte, cette interdisciplinarité, je dis, est-ce que ce n'est pas ça, en fin de compte, l'apport du féminisme à l'université? C'est cette interdisciplinarité qui est maintenant devenue normale. Hein, être l'indiscipliné dans toutes les disciplines, c'est normal. On ne dit plus droit public et droit privé, il y a le droit. On ne dit plus, je ne sais pas, comme le droit de l'environnement. Donc, c'est devenu quelque chose de normal. Mais l'histoire a fait que Fatima Bernissi est encore pionnière sur cette question.
Merci, voilà. Merci pour vos questions et interventions. Donc, je commencerai par la question de... d'Aurélie. Je suis contente de rencontrer Aurélie après 10 ans, je pense, maintenant. Donc, elle vous parlez de l'impact des travaux de Mernissi, surtout de Mernissi, la sociologue. Alors, pour moi, le plus grand impact, c'est qu'elle a montré que la sociologue n'est pas un domaine fermé sur ses propres méthodes, mais que ça peut être ouvert vers d'autres disciplines, ouvert à l'histoire, ouvert même à l'interprétation des textes sacrés. Donc, elle a pu concilier tout ça avec des méthodes purement scientifiques, purement sociologiques. Et là, j'aimerais mentionner une particularité de Fatima El-Mernissi, c'est que, quoique son style est profondément scientifique, c'est un style qui n'est pas resté technique, comme le style de beaucoup de sociologues. C'est un style plutôt romancier, agréable à lire. On a l'impression parfois de lire un roman, alors qu'on est en train de lire un livre profondément scientifique. Par rapport à votre question sur le féminisme islamique, c'est quoi le féminisme islamique? C'est des femmes qui ont la profonde conviction que l'essence de l'islam est libératrice et qu'en revanche, cette essence libératrice a été prise en otage par la jurisprudence, par le pouvoir politique, qui ont essayé de manipuler les textes à travers plusieurs siècles, ont manipulé les textes religieux en leur faveur, justement pour marginaliser les femmes, plus de pouvoir en faveur asservir la religion en faveur du pouvoir politique, ou justifier plutôt l'autocratie en islam. à servir les textes religieux pour justifier l'autocratie en islam. Et ces femmes ont la profonde conviction qu'en relisant, en réinterprétant les textes sacrés, on peut encore faire ressortir cet esprit libérateur. De toute façon, c'est comme ça que je comprends le féminisme islamique. Et là il y a un point intéressant aussi à évoquer par rapport à Fatema al-Mernissi, c'est qu'elle ne s'est jamais déclarée féministe islamique, mais elle ne s'est jamais déclarée féministe non plus. Elle ne s'est jamais appropriée une étiquette quelconque. Elle a laissé un héritage riche à partir duquel on peut la classer féministe laïque, féministe islamique, pas féministe du tout, et un héritage à travers lequel tout le monde peut en profiter. Une dernière chose que j'aimerais souligner concernant Fatema al-Mernissi, c'est son appropriation du concept harem. C'est comme un concept qui lui a permis d'expliquer non seulement la discrimination des femmes dans le monde musulman, mais la discrimination des femmes aussi en Occident. Elle avait parlé, quand elle parlait du Sénat français dans les années 80, elle a dit que c'est un espace qui est monosexe, et dans ce cas-là, le Sénat français, où il y a moins de 4% de femmes, c'est un harem. Donc c'est devenu un concept scientifique qui permet d'expliquer plusieurs phénomènes. Merci.
Fatiha Araour, elle est sociologue politicienne et militante des droits des femmes.
Merci. Juste dans le même sens, je voudrais ajouter une chose concernant l'interdisciplinarité de Fatema al-Mernissi. Moi, je peux dire même, Fatema al-Mernissi n'était pas seulement sociologue féministe, mais on peut dire qu'elle a été aussi dans la démarche de l'anthropologie historique et l'anthropologie du texte, parce que étant donné qu'elle a travaillé sur les textes religieux, étant donné qu'elle a essayé d'interpréter ou de creuser et de vraiment chercher là où on ne s'attendait pas de trouver vraiment des éléments qui concrétisent ou qui parlent de l'égalité homme-femme ou au moins la place de la femme en islam. J'ai eu la chance de connaître Fatema al-Mernissi de près dans son association la Synergie Civique, et je peux dire aussi que je l'ai connue très tôt, j'avais à peine 16 ans, donc j'ai fait mes armes dans la lutte féministe grâce à ses œuvres que j'ai pu j'ai lu presque, je ne peux pas dire que j'ai lu tout. Voilà, donc Fatema n'était pas féministe, n'avait pas une étiquette claire, mais il a inspiré le mouvement féministe au Maroc et il a réorienté le mouvement féministe. Au début, c'était vraiment, on était coincés dans cette logique des droits humains, le droit universel et tourner le dos au référentiel national. Donc, il a réconcilié le mouvement féministe avec le référentiel local et national, et c'est grâce à elle qu'on a pu avancer, c'est grâce à elle que le statut de la femme a changé au Maroc. Et merci.
Pour nos amis, pour clôturer cette première session et laisser l'espace aux deuxième équipe.
À la deuxième équipe.
D'accord. Alors, oui, donc pour répondre à Aurélie aussi, j'ajouterais à ce qu'a dit Mariam, donc dans le, parce que justement on a vu que l'œuvre de Fatema al-Mernissi était beaucoup plus plurielle, et on ne peut pas dire quel est le centre, mais certainement elle a eu un impact très très grand. On a vu avec Fouzia l'a confirmé qu'elle a eu un impact très très important pour le féminisme au Maroc. En termes de transmission, bien sûr on a quelqu'un comme Asma Lamrabat ou Aïcha Hajjami qui sont des exemples très clairs de la transmission de son féminisme islamique. Et on a aussi et ce n'est pas seulement au niveau local, mais au niveau transnational, avec le mouvement Moussawa dont j'ai parlé. Et on a ici Sarah, qui est représentante du mouvement Moussawa pour l'égalité des femmes dans les la famille musulmane. Pour ce qui est des universités, je ne suis pas habilitée à parler de tout ce qui se passe, mais j'ai l'impression que quand je pose cette question sur si Fatma al-Manissi, elle est où ses œuvres sont étudiées en classe, il me semble que, je ne sais pas pourquoi, mais dans les départements de sociologie, il n'y a pas cet intérêt. À la place, je ne sais pas, Mariam, peut-être elle était dans la sociologie, mais j'ai l'impression que dans la sociologie, dans les départements littéraires, oui, mais pas trop dans les départements de sociologie. Oui, exactement, ce qui est bizarre. Pas bizarre, mais c'est parce qu'il y a eu... Mernissi ne cadrait pas dans le cadre sociologique, académique. Elle utilisait la fiction, les écrits sont très romancés et tout. La deuxième, en ce qui concerne l'interdisciplinarité, je dirais que l'interdisciplinarité est venue à Mernissi, s'est imposée à Mernissi. C'est pas très réfléchi, mais c'est quelque chose qui vient parce qu'elle est, elle est obsédée, on peut dire, par être le plus proche du réel. Donc, à chaque fois, elle va emprunter, ou la fiction, elle va, dans les années 80, elle est très attentive au pouls social. Elle voit dans les années 80 que le féminisme universel, laïque, ne passe pas beaucoup. Elle voit l'islam, elle se réapproprie l'islam, elle crée ce qu'on a appelé le féminisme islamique, on l'a imposé sur elle, mais c'est des concepts analytiques qui sont importants pour nous pour comprendre, mais bien sûr ce n'est pas des cadres où on peut réduire l'œuvre de Fatma al-Manissi, mais c'est quand même des concepts importants pour l'analyse. J'insisterai sur le caractère fluide de Mernissi, qui lui vient de l'occupation pour être le plus organique possible, être en suivant le mouvement de la société et le pouls de la société.
Et justement, je rebondirai sur ce qu'a dit Rachida. J'avais une autre. Justement, je crois que le fait qu'il y ait plusieurs points de vue et contradictoires et des étiquettes aussi, c'est vrai que moi, la première fois que j'ai vu Fatima Mernissi dans quelque chose qui s'appelait féminisme islamique, j'ai dit ah bon, déjà féministe, non, islamique encore moins. Enfin, d'après ce que j'avais lu d'elle, mais je pense que justement, ça vient de sa volonté, sa capacité, mais même de sa volonté vraiment de s'attaquer à tous les fronts et de jamais, en fait, de laisser personne, de laisser de répit pour personne, ni le patriarcat, ni l'islam, ni le colonialisme, ni le discours nationaliste, personne, tout le monde en a pour son grade dans ses ouvrages, je trouve. C'est moi ce qui m'a plu aussi, c'est le côté un peu spontané de son combat, enfin très passionné dans ce qu'elle écrit. Et ce qui, je pense aussi, tout à l'heure, j'ai entendu agaçant, des fois est un peu agaçant, son côté, justement, qu'elle utilise beaucoup, le côté romancé, tout ça. Quand on lit, quand on est en train de faire des recherches scientifiques et ça, on s'attache un peu aux faits, on veut des choses très claires. Et moi aussi, des fois, ça m'agaçait un petit peu parce qu'elle avait une façon d'exprimer des choses. Mais c'est vrai qu'en le relisant, je comprenais qu'il y a quelque chose derrière. Mais des fois, elle l'exprimait de façon un peu trop jolie, un peu trop... avec des images, tu sais, je me disais, mais c'est pas très... Pourquoi elle ne dit pas les choses clairement, etc. Et je crois que c'est... Mais justement, je pense que c'est ce qu'on peut lui critiquer et en même temps, sa richesse... de sa fluidité qui explique du coup aussi son interdisciplinarité. Vraiment, s'il y a transmission, je trouve que c'est le genre de penseur justement qui n'auraient pas voulu qu'on le catalogue, et c'est ça qui moi me plaît vraiment, c'est les chercheurs qui m'intéressent le plus, parce qu'elles ne s'arrêtent pas justement à une étiquette ou à une mode ou à quoi que ce soit, et elles partent, comme tu as très bien dit, pour vraiment pour s'approcher le plus du réel, quoi.
Merci. Aurélie, vous voulez un dernier mot ? Est à vous ? Non, ça va. Je remercie toutes les participantes à cette première session, cette table ronde sur l'œuvre de une partie de l'œuvre de Fatima Mernissi, et on cède l'espace à la poursuite du programme de la journée. Merci.